Alors, si vous me permettez, on va entreprendre notre rencontre de ce midi. On m'a demandé de vous présenter notre conférencière. C'est avec empressement que j'ai dit oui. C'est toujours pour moi un grand plaisir de vous permettre d'être informé des travaux qui sont réalisés au sein de l'équipe. D'autant plus que dans ce cas-ci, vous allez constater, Marie-Ève a mis des défis. Elle explore des champs vraiment novateurs, mais qui touchent à votre quotidien. Et vous allez voir, j'en suis convaincue dans la présentation, l'ampleur du travail qui est accompli et l'ouverture d'esprit face à une problématique actuelle. Et ça va me faire plaisir d'animer la période de discussion, commentaires et questions parce que je suis convaincue que ça va susciter chez vous des réactions multiples. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à notre conférencière, Marie-Ève Couture-Ménard.
Bonjour, alors j'aimerais d'abord vous remercier d'être ici. Ça me fait plaisir de partager avec vous le fruit de mes recherches. Donc, comme on vous l'a mentionné, mon titre de mémoire, c'est « Nouvelle vague d'OGM dans nos assiettes. Qu'en est-il de l'encadrement normatif du saumon transgénique au Canada? » Alors, si pour certains c'est un titre assez évocateur, pour d'autres ça peut susciter bien des questions. Alors, pourquoi on parle d'une nouvelle vague d'OGM dans nos assiettes? À quoi peut bien ressembler un saumon transgénique? Rassurez-vous parce que dans les premières minutes de ma présentation, je vais tenter de répondre à ces questions. En effet, je vais commencer par faire une mise en contexte de mon sujet pour vous montrer un peu l'origine de mon sujet aussi, à quel point il est d'actualité. Je suis ensuite rentrée dans le cœur de mon humeur avec une explication de l'application de la biotechnologie à l'aquaculture, en particulier sur le saumon d'élevage. Je vais bien entendu décrire les avantages escomptés de cette application-là ainsi que les risques qui sont anticipés. Puis je vais faire état de ma problématique ainsi que de mes observations, notamment sur le cadre normatif canadien. Et je vais terminer avec ma petite conclusion. Donc, pour commencer, j'aimerais vous rappeler l'importance du poisson à titre d'aliment. C'est la principale source de protéines animales pour une population de 1 milliard d'individus vivant dans 58 pays. Donc, la majorité des pays en voie de développement, le poisson, c'est une source de protéines beaucoup plus accessible que la viande. Par ailleurs, on lui prête de nombreuses vertus nutritionnelles. On en parle aussi beaucoup de temps-ci, la teneur en oméga-3 de certains poissons, dont le saumon, la présence de sels minéraux, de vitamines A, D, E. Mais vous l'aurez probablement deviné, le problème, c'est que alors que la demande de poissons et de produits du poisson augmente sans cesse, les ressources halieutiques, elles, connaissent une baisse fulgurante depuis plusieurs années en raison des pêches abusives et de la pollution. Alors, face à cet écart alarmant, l'aquaculture est apparue comme une solution envisagée. Et puis, l'aquaculture qui consiste en fait à produire et à gérer des organismes aquatiques dans un milieu restreint. Donc, on peut parler par exemple de l'élevage de poissons. C'est une industrie qui connaît un effort considérable depuis plusieurs années. Plus particulièrement au Canada, l'industrie de l'aquaculture en 1986 était évaluée à 35 millions de dollars et dès 2004, elle est passée à 526,5 millions de dollars. Aussi, au Québec, en 2003, le législateur a jugé bon d'adopter une loi sur l'aquaculture commerciale. Or, on ne pourrait pas parler de l'aquaculture canadienne sans mentionner le saumon. En effet, le saumon d'élevage représente 2/3 de la production aquacole canadienne et on lui attribue 3/4 de la valeur totale de l'industrie, donc 387 millions sur les 526 dont j'ai parlé. Or, au même moment où le saumon d'élevage, lui, connaît peut-être une croissance, le saumon sauvage, au contraire, est une espèce de plus en plus menacée. En effet, depuis les années 70, les populations de saumon sauvage connaissent une baisse inquiétante, notamment en raison de la destruction des fonds marins, de la pollution et des pêches abusives. D'ailleurs, dans la loi canadienne sur les espèces en péril, on retrouve une espèce de saumon listée comme une espèce disparue du pays. Et puis, aux États-Unis, il y a 4 espèces de saumon qui sont protégées par la loi sur les espèces en péril. Par ailleurs, si on s'attarde aux particularités de ce poisson, on peut mieux comprendre les caractéristiques de son aquaculture. Le saumon, c'est d'abord un poisson anadrome, c'est-à-dire qu'il passe une partie de sa vie dans l'eau douce et une autre dans l'eau salée. Il naît dans l'eau douce, on sait qu'il part, il grossit dans l'eau salée puis revient à sa rivière natale pour se frayer. Donc, il est amené à faire des déplacements assez importants et s'adapter à des milieux aquatiques différents. Son cycle de vie, c'est 2 à 4 ans. Donc, c'est un cycle assez long. C'est aussi un poisson carnivore qui mange des petits poissons sauvages et des crustacés. Il vit dans l'eau tempérée. Et puis, le plus important, vraiment, sa diversité biologique est impressionnante. En effet, à l'intérieur même de l'espèce, on retrouve plusieurs familles. Peut-être que quelques-unes peuvent vous rappeler quelque chose comme le saumon sockeye, le saumon rouge, le saumon court, le saumon chinook, il y en a plein. Mais à l'intérieur même des familles, il y a des centaines de lignées. Donc, dépendamment des rivières, des saisons, des lacs, il va y avoir différentes lignées de poissons. Juste dans le nord-ouest Pacifique, on compte plus de 300 sortes de lignées de saumon. Donc ça, c'est une diversité biologique qui est aussi très importante à conserver parce que chaque lignée a ses propres caractéristiques biologiques qui fait que le poisson est adapté à son environnement. Donc, à partir de ces particularités-là, on peut comprendre les caractéristiques de la saisonniculture, donc l'élevage de saumon. Ça nécessite des installations aquacoles à la fois dans l'eau douce et dans l'eau salée. En fait, les installations d'eau douce, c'est des bassins fermés où la température de l'eau est contrôlée. Mais du moment que le saumon passerait au stade de l'eau salée, on le met dans des enclos immergés en mer. Donc, il est directement élevé sur les côtes. Et ce que ça produit, c'est que ça crée une agglomération de la salmoniculture proche des côtes qui détériore, entre autres, l'habitat du poisson. Donc, par exemple, dans la baie de Fundy, on retrouve 96 fermes d'élevage concentrées au même endroit, ce qui équivaut à 20 millions de saumons d'élevage qui évoluent dans un endroit limité. Ensuite, le cycle de production, comme le cycle de vie du saumon est assez long, son cycle de production l'est aussi. Ce que ça fait, c'est que le saumon reste longtemps dans les enclos en mer. Il est plus susceptible d'être vulnérable aux intempéries, comme on ne peut pas contrôler la température de l'eau. C'est souvent à l'origine de nombreuses pertes. Ou aussi, s'il y a des tempêtes, les enclos sont endommagés, il y a beaucoup d'échappées. Donc ça, c'est déjà un problème actuellement, le nombre de saumons d'élevage qui s'échappent des enclos. Ensuite, les frais de production sont très élevés. On attribue 60% de ces frais-là à la nourriture. Comme j'ai dit, le saumon est un poisson carnivore. Et donc, ça, la demande de petits poissons sauvages pour nourrir le saumon d'élevage est très importante. Et puis, je vous dirais que pour produire 1 kg de saumon sauvage, ça prend 4 kg de poisson. Pour produire 1 kg de saumon d'élevage, ça prend 4 kg de poisson sauvage. On voit déjà le paradoxe entre le fait de recourir à l'aquaculture pour préserver les stocks sauvages. Mais ça, c'est comme une autre histoire. Il y a aussi des déchets organiques importants qui se retrouvent en dessous des enclos. Et puis, enfin, on parle d'une densité de production très élevée qui est propice à la propagation de maladies. D'ailleurs, on attribue aux maladies 10% de la perte des saumons d'élevage. Enfin, face à tous ces inconvénients écologiques et économiques, c'est sûr que l'utilisation de la biotechnologie dans l'aquaculture a fait miroiter plusieurs possibilités pour contrer les effets. Ce qui a donné lieu à la biotechnologie aquacole. En effet, à la jonction entre le progrès que connaît l'aquaculture et celui que connaît la biotechnologie, on retrouve la biotechnologie aquacole. Depuis plusieurs années, dans le domaine biotechnologique, on arrive à produire des organismes génétiquement modifiés, ou mieux connus sous l'appellation OGM. Un OGM, c'est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique pour lui attribuer des caractéristiques différentes. On a vu beaucoup l'application de la biotechnologie dans le domaine végétal depuis plusieurs années, ce qu'on peut appeler aussi la révolution verte, c'est-à-dire le recours à la biotechnologie dans le domaine de la production agricole. Mais depuis quelques années, on parle de l'amorcement de la biotechnologie animale ou de la révolution bleue. C'est donc l'application de la biotechnologie dans la production animale. Les avantages de cette application, notamment dans le domaine de la production alimentaire, ce serait une production plus efficace, moins coûteuse et plus écologique. Plus particulièrement, au niveau de la biotechnologie aquacole, ça permettrait de faire un compromis entre le besoin de satisfaire la demande et le besoin de protéger les ressources halieutiques. Or, dans le domaine de la salmoniculture, la principale application de la biotechnologie, c'est la transgénèse, qui consiste soit à enlever, déplacer ou modifier un gène du saumon ou bien à introduire le gène d'une autre espèce végétale, animale ou micro-organique chez celui-ci. Les deux dont le but de lui procurer des caractéristiques nouvelles. Plus concrètement, les avantages qu'on escompte de l'utilisation de la biotechnologie dans le domaine salmonicole, c'est notamment l'augmentation du taux de croissance du saumon. Il faut faire attention, de l'augmentation du taux de croissance, c'est pas que le saumon est plus gros à la fin de son cycle, c'est juste que son cycle est plus rapide. Donc, au même jour de développement, un poisson transgénique va être beaucoup plus gros que son compère non transgénique. Mais à la fin de leur cycle, les deux vont avoir la même grosseur. Ça, ça permettrait de réduire les coûts de production parce que le saumon reste moins longtemps finalement dans l'installation d'élevage, ce qui fait qu'on a moins besoin de le nourrir, d'utiliser des antibiotiques et tout ça. Ça permettrait de réduire la demande de poissons sauvages pour le nourrir, de réduire la quantité de déchets par poisson. Puis en réduisant le temps de production dans les enclos en mer, on réduirait aussi les chances d'échapper ou de vulnérabilité aux intempéries. Mais si on connaît un peu les éleveurs, c'est sûr qu'ils ne vont pas nécessairement vouloir réduire leurs frais de production, mais peut-être utiliser les mêmes frais pour produire le double finalement de poissons. Donc doubler la production pour les mêmes ressources. Les recherches ont porté majoritairement sur l'augmentation du taux de croissance, mais elles ont aussi porté sur l'amélioration de la tolérance au froid. Comme on a dit, le saumon est une espèce qui vit en eau tempérée, et donc souvent ça engendre des pertes quand les saisons sont plus froides que la normale. Ça permettrait donc de réduire ces pertes-là, et aussi ça permettrait l'expansion de la salmoniculture dans des régions qui à date étaient trop froides pour le faire. Et ça, c'est un problème que les éleveurs connaissent beaucoup au Nouveau-Brunswick et dans le Maine. Ensuite, les recherches ont porté aussi sur la résistance aux agents pathogènes. Donc, ça aussi, ça permettrait de réduire les pertes, mais aussi de diminuer les quantités de pesticides et d'antibiotiques utilisés, qui sont très critiqués au niveau environnemental. En fait, je pourrais vous en nommer d'autres. Là. Il y a des recherches sur augmenter la teneur en oméga-3, augmenter la tolérance à la salinité de l'eau, végétariniser le saumon. On pourra en parler plus tard, si vous voulez. Et donc, il y a beaucoup de possibilités avec la transgénèse. Mais, il y a une compagnie qui a créé un saumon en particulier transgénique, et c'est le saumon Aquavantage. C'est la compagnie AF Protein, qui est une compagnie américaine, dont la branche qui s'occupait de la biotechnologie aquacole est indépendante depuis 2000 sous le nom Aqua Bounty Technologies. Et cette compagnie-là a une division qui opère au Canada sous le nom de Aqua Bounty Canada, et c'est cette division-là qui est responsable du saumon Aquavantage. Donc, il y a des saumons Aquavantage en ce moment à Saint-John, Terre-Neuve, dans des bassins fermés pour la recherche. Et c'est un saumon, en fait, le saumon Aquavantage, c'est un saumon de l'Atlantique à la base, dont le taux de croissance a été amélioré, et par conséquent, son cycle de vie est 4 à 6 fois plus rapide. Donc, au lieu de passer, par exemple, 2 hivers dans les enclos, ils vont passer seulement un. Ce qu'on a fait pour produire ce saumon-là, c'est qu'on a pris... Bon, d'abord, le saumon est un poisson qui grossit pendant les saisons chaudes. Son hormone de croissance est stimulée seulement dans les saisons de chaleur. Donc, c'est un poisson qui grossit presque pas pendant les saisons froides. Et les scientifiques de AF Protein se sont dit, si on prenait un gène antigel d'un poisson arctique qui, lui, grossit pendant les saisons froides et qu'on le mettait dans le saumon pourrait grossir à l'année longue, finalement, ce qui fait que son cycle de vie est accéléré. Eux, ils ont fait comme un construit génétique. Donc, ils ont pris un gène antigel du taco, qui est un saumon arctique, puis ils l'ont greffé sur un gène de croissance du saumon chinook. Pourquoi? Pour pouvoir différencier cette source d'hormones de croissance-là du saumon, de la source initiale du saumon de l'Atlantique. Parce qu'on aurait pu mettre le gène du taco directement dans le saumon de l'Atlantique, mais on n'aurait pas pu différencier les deux sources d'hormones de croissance. Donc, bref, c'est un construit génétique qu'on a mis dans le génome du saumon de l'Atlantique qui lui permet de grossir aussi pendant les saisons froides. Mais le plus important, c'est que la compagnie Aqua Bounty Technologies a fait une demande d'autorisation de mise en marché de ce poisson-là auprès de la Food and Drug Administration en 2001. Donc, depuis 2001, les États-Unis évaluent déjà la demande de commercialisation de ce poisson-là. Et comme la compagnie est basée au Canada, en ce qui concerne le saumon Aquavantage, ce ne serait pas trop farfelu d'imaginer qu'on pourrait recevoir une telle demande. À ce moment-là, vous l'aurez sûrement deviné, on s'interroge sur les risques que peut poser un tel poisson. Donc, selon nous, il y a trois catégories de risques. Il y a les risques d'abord pour le saumon lui-même, qui est probablement le premier qui va ressentir les effets de la transgénèse. Ensuite, il y a les risques pour l'environnement, advenant la dissémination dans l'environnement d'un poisson comme ça. Et ultimement, comme c'est un produit destiné à notre table, ben, c'est évident qu'on se pose des questions sur les risques pour la santé humaine. Alors, l'ordre des risques suit en fait l'ordre de production. Donc, la première étape, c'est appliquer la biotechnologie. Donc, premier risque, c'est celui pour la santé et le bien-être du poisson lui-même. Ensuite, on fait l'élevage de ce poisson-là. Et c'est là que les risques environnementaux entrent en compte parce qu'il y a des possibilités d'échapper. Puis, en fin de compte, c'est la mise en marché. Donc, production alimentaire, on s'interroge sur les risques pour la santé humaine. Pour les risques qui concernent la santé et le bien-être du saumon d'élevage transgénique lui-même, il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été effectuées. Et la majorité d'entre elles portent sur le saumon et plus particulièrement sur le saumon avec un taux de croissance amélioré. Donc, les résultats que je vous présente là, c'est assez ciblé. On a recensé des anomalies morphologiques au niveau de la mâchoire, du crâne et des opercules qui sont proches des branchies, qui ont résulté en des difficultés de se nourrir, de respirer et de nager. On a aussi observé des comportements au niveau de l'alimentation. C'est des poissons qui ont un besoin nutritionnel beaucoup plus élevé que leurs homologues non transgéniques, ce qui fait qu'ils vont passer beaucoup de temps à chercher leur nourriture. Et ils vont parfois devenir agressifs pour se nourrir plus que les non-transgéniques ou ils vont avoir moins de vigilance par rapport aux prédateurs. Pour en nommer d'autres, on a recensé aussi un affaiblissement du système immunitaire, des dommages au tissu musculaire et une stimulation exagérée du système endocrinien chez la progéniture. Donc, si ces risques-là sont déjà un peu alarmants, on peut s'imaginer que cumulés à ceux pour l'environnement, ça devient d'autant plus inquiétant. Donc, s'il y a dissémination du poisson transgénique dans l'environnement, il y a deux sortes de risques. C'est les risques pour le saumon sauvage en particulier, mais aussi les risques pour les écosystèmes en général. Donc, au niveau du saumon sauvage, on craint qu'il y ait une compétition qui s'établisse entre le saumon d'élevage transgénique et le saumon sauvage au niveau de la nourriture, de l'espace et des partenaires sexuels. C'est sûr que déjà les populations de saumon sauvage sont assez fragile, donc ça accentue d'autant plus le risque, mais c'est sûr qu'on ne connaît pas l'issue de la compétition. C'est hypothétique, mais compte tenu de ses caractéristiques nouvelles, on peut croire que le saumon transgénique pourrait être plus en mesure, par exemple, de prendre les proies que le saumon sauvage. Mais on craint aussi beaucoup pour la biodiversité des populations sauvages, parce que si un poisson transgénique s'hybride avec un saumon sauvage, bien, la progéniture perd l'unicité des gènes de la population sauvage. Et comme j'avais dit, les caractéristiques biologiques sont très importantes pour l'adaptation à l'environnement. Donc, du moment qu'ils vont perdre ces caractéristiques génétiques-là, ça peut nuire à la survie de la population, donc à sa viabilité. On a aussi peur au niveau de la propagation de maladies. Pour les écosystèmes, c'est sûr qu'on pourrait envisager une perturbation de la chaîne alimentaire. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, le saumon d'élevage transgénique qui, maintenant, avec ses nouvelles caractéristiques, peut aller vers des proies vers lesquelles il n'y allait pas avant puis compétitionner avec des nouveaux prédateurs. Ou, à l'inverse, normalement, celui qui mangeait le saumon transgénique pour avoir de la difficulté à l'attraper, on peut imaginer plusieurs scénarios qui viendraient perturber la chaîne alimentaire. Aussi, on craint aussi au niveau de la propagation de maladies. Et il ne faut pas oublier que les écosystèmes terrestres interagissent avec les écosystèmes aquatiques. Par exemple, l'ours est un poisson qui se nourrit de saumon. Donc, si le saumon transgénique affecte le saumon sauvage, ça peut affecter l'ours aussi. Enfin, les risques pour la santé humaine sont de deux ordres, au niveau de la toxicité et au niveau de l'allergénicité. Donc, la toxicité, c'est la propriété d'une substance à entraîner un effet néfaste sur les êtres vivants par contact physique, ingestion ou inhalation. C'est sûr qu'il y a déjà des toxines dans l'eau et on les retrouve dans certains poissons. Donc, le mercure, par exemple, on le retrouve dans le thon ici. On en entend souvent parler de ce temps-ci. Par contre, ce qu'on craint, c'est qu'un saumon transgénique puisse développer une tolérance beaucoup plus élevée à ces toxines-là et que ça se retrouve dans son organisme, puis nous, après, on le mange, ou que le saumon transgénique produise une nouvelle toxine qu'on n'avait pas identifiée au début. Au niveau des allergies, on sait déjà que le poisson, c'est un produit allergène très, très répandu, justement dans la population adulte. les quatre allergies les plus fréquentes, c'est arachide, noix, poisson et crustacés, donc déjà. Et puis, ce qu'on a peur, finalement, c'est qu'il y a introduction d'une protéine allergène dans le saumon qu'il n'y avait pas avant. Donc, si, par exemple, le taco, moi, je suis allergique au taco, et qu'on prend un gène de taco et on le met dans le saumon transgénique, mais là, moi, je peux devenir allergique au saumon, finalement. Mais au gène de taco dans le saumon. Donc, ça pourrait créer plusieurs problèmes. On a peur aussi qu'il y ait production d'une nouvelle protéine allergène. Donc, compte tenu de tous ces risques et du fait que, parallèlement, il y a une demande de commercialisation d'une compagnie qui est basée en partie au Canada, à titre de juriste, on s'est bien évidemment posé la question suivante. Le cadre normatif canadien actuel permettrait-il d'assurer la protection de, 1, la santé et le bien-être du saumon transgénique, de l'environnement et de la santé humaine, advenant la mise en marché d'un tel poisson? Alors, nous, pour répondre par l'affirmative à cette question, on a établi des critères de protection, c'est-à-dire des critères qui, s'ils sont remplis, permettraient de conclure qu'il y a une protection des trois aspects. Selon nous, ce qui serait nécessaire, c'est qu'une fois qu'il y a une demande d'autorisation qui a été déposée, qu'on commence un processus d'approbation qui sous-tend une certaine évaluation des risques et que cette évaluation-là tienne compte à la fois et également de la santé du saumon transgénique, de l'environnement et de la santé humaine. Mais le plus important, ce serait qu'il faut qu'une législation fédérale prévoie cette évaluation-là pour que ça soit universel, finalement, au Canada. Et il faut que cette législation-là donne les pouvoirs nécessaires à une autorité d'effectuer l'évaluation. Donc, cette évaluation des risques-là se situe, dans le fond, entre le dépôt de la demande d'autorisation et la décision gouvernementale de permettre ou non l'élevage d'un tel poisson. Mais pour assurer une protection complète, il faudrait que ça donne lieu aussi à un suivi pendant la production. Un suivi au niveau de deux aspects, la conformité à la loi et une surveillance. Donc, je m'explique. Par exemple, si la compagnie Aquabounty Canada dépose une demande d'autorisation au gouvernement canadien, nous, on veut que le gouvernement canadien évalue les risques préalablement à sa décision. Mais si, par exemple, il évalue qu'il donne l'autorisation d'élever le saumon transgénique, mais à condition que ce poisson-là soit stérile, donc qu'il ne puisse pas s'hybrider avec des poissons sauvages, donc, il va dire, bon, à Aquabounty Canada, vous pouvez élever votre poisson, mais à condition que ce soit stérilisé. À ce moment-là, il faut un suivi parce que qu'est-ce qui nous dit que l'éleveur va bien stériliser ses poissons? Alors, ça prend une surveillance de conformité à la loi, donc des inspections pour s'assurer que les conditions sont respectées. Mais si, par exemple, l'éleveur stérilise ses poissons, mais il y a tout de même des dommages environnementaux. Donc, il y a conformité à la loi, mais il y a des dommages quand même. Donc, il ne faut pas juste un suivi de conformité, il faut comme une vigilance aussi environnementale, par exemple, pour s'assurer qu'on contrôle les risques, même les risques nouveaux qu'on n'avait pas envisagés, par exemple. Une fois qu'on a établi nos critères, on est allé voir les organismes suivants. Donc, on a étudié leur mandat et leurs normes. Le Conseil canadien de protection des animaux, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Pêche et Océan Canada, Environnement Canada et Santé Canada. Et on a examiné beaucoup de textes législatifs, fait, je vais vous en nommer quelques-uns. La loi sur la santé des animaux, la loi sur les pêches, la loi canadienne sur la protection de l'environnement et la loi sur les aliments et drogues. Ce qu'on a observé, c'est vraiment que les organismes, par exemple, vont avoir une préoccupation, disons, à l'égard des risques pour la santé humaine, mais ils ne vont pas nécessairement avoir l'expertise pour évaluer ces risques-là, ou bien ils vont avoir le pouvoir de faire une évaluation, mais pas non plus l'expertise. À l'inverse, on a observé que certains organismes avaient développé une expertise dans un domaine, mais n'avaient pas le pouvoir de la mettre à profit. Donc ça, c'est vraiment l'observation principale qu'on a fait au niveau de la législation. Et où est-ce que j'ai mis l'étoile, en fait, ce qui serait le plus complet, ce serait d'avoir une préoccupation, une expertise et un pouvoir. Et ça, à date, on l'a pas trouvé. Mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est que oui, il y a existence de législations qui sont applicables, donc la loi canadienne sur la protection de l'environnement et la loi sur les aliments et drogues, mais il y a aussi des ententes qui sont faites, par exemple, pour les données. Bon, je donne un exemple. La loi canadienne sur la protection de l'environnement, elle donne à Environnement Canada et Santé Canada le pouvoir d'évaluer des risques pour l'environnement et la santé humaine. Par contre, ils n'ont pas vraiment développé une expertise. c'est le ministère des Pêches océanes qui a développé l'expertise. Donc, il y a une entente en attendant des législations futures sur le fait que le ministère des Pêches et océans va s'occuper d'évaluer le dossier au nom d'Environnement Canada et Santé Canada qui, eux, ont le pouvoir. Donc, il y a des choses qui bougent entre les ministères, ça c'est évident. Il y a aussi des projets de législation future pour remédier justement à certaines situations législatives qui ne sont pas tout à fait adaptées ou sont transgéniques. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'on a constaté qu'il y a vraiment une préoccupation sur les trois aspects. Donc, pour la santé du saumon, pour l'environnement, pour la santé humaine, ça c'est certain, il y a aussi un développement d'une expertise dans les trois champs. Pour terminer, j'aimerais dire que si mon mémoire peut sembler pour vous un peu limité parce que ça porte vraiment sur le saumon d'élevage transgénique, en fait, non, détrompez-vous, je pense que l'analyse qu'on a faite de la législation pourrait s'appliquer à bien d'autres champs concernant la biotechnologie animale, donc pas nécessairement le poisson, mais d'autres animaux. Et puis, c'était vraiment une opportunité de revisiter la législation actuelle en lien avec le développement de la biotechnologie, puis de vraiment constater l'écart parfois, ou bien des bonnes décisions qui ont été prises pour essayer que la loi et la science puissent être se suivre finalement. Donc, en terminant, comme je disais, il y a comme un bouillonnement là, au sein du ministère, puis pour revisiter le cadre législatif, donc c'est vraiment un sujet à suivre. Donc, j'aimerais remercier Mme Leroux, la directrice, pour ses encouragements et ses conseils vraiment essentiels, et puis aussi la faculté des études supérieures. Merci beaucoup d'être venu, merci à vous.
La chose que je veux demander, c'est, étant donné que la compagnie qui a mis au point le saumon transgénique est aussi basée aux États-Unis et qu'elle a demandé un agrément à la Food and Drug Administration, est-ce qu'il est possible que si la Food and Drug donne son agrément, elle implante aussi nous au Canada sans passer par l'agrément
non.
Qui se procure via Internet les semences et c'est pas possible.
Non, c'est ça. Dans la loi canadienne sur la protection de l'environnement, il y a un article qui stipule qu'il est interdit de fabriquer un organisme vivant sans avoir soumis un dossier pour évaluation. Donc, c'est vraiment la fabrication, l'élevage même est interdit. Donc, c'est très, comme par exemple, comme tu sais, tu pourrais faire l'élevage, mais pas le vendre dans nos marchés, mais non, juste le fait de l'élever, ça prend une autorisation. Donc en ce moment, c'est comme considéré au stade de recherche, mais c'est sûr que c'est comme à la limite, là, parce que... Puis la seule chose que je peux te dire, par exemple, c'est que si la FDA accepte, c'est sûr que Santé Canada puis Environnement Canada, ça peut les influencer, dans le sens où j'ai vu... Ben ça, en tout cas, c'est pas... Il y a des écrits, par exemple, où ils vont dire, ben c'est certain qu'on peut se partager les évaluations scientifiques. Donc, si eux, par exemple, ont évalué un dossier puis ils ont vu tel risque, bien, c'est sûr qu'on peut partager les connaissances. Puis le Canada va peut-être demander aux États-Unis, mais vous, sur quoi est basée votre décision et tout. Mais il peut y avoir des échanges, c'est sûr, mais ils ne peuvent pas sauter par-dessus nos lois.
Et concernant les saumons qui s'échappent des élevages, je sais qu'il y a déjà eu des cas où le milieu marin a été un peu modifié parce que, bon, il y en a. C'est assez important sur les saumons des vaches qui s'échappent. Donc, ils sont quand même, je pense, capables d'évaluer les risques d'introduction d'un saumon transgénique sur la biodiversité alentour.
Ouais.
Est-ce qu'il y aurait... Est-ce que la législation est en train d'un peu prendre le devant ou est-ce qu'ils vont vraiment attendre que le saumon transgénique, je dirais, soit commercialisé avant de prendre des mesures sur la biodiversité ou...
Ben, c'est sûr que, bon, c'est au début, bon, départ... Juste au niveau de la recherche scientifique qui est faite, on utilise beaucoup le phénomène qui se passe en ce moment au niveau du saumon d'élevage échappé. Ça sert à faire comme une base de connaissances qu'on peut comme exporter finalement de façon comme virtuelle sur le saumon transgénique. Là, ça, c'est certain qu'on utilise déjà. Au niveau des lois, moi, j'ai pas vu qu'on servait... Ben, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'au niveau des lois, c'est vraiment perçu comme l'application de la biotechnologie. Ça fait en sorte que les dispositions qu'on utilise, c'est pas nécessairement concernant le poisson, c'est plus concernant les produits biotechnologiques. En tout cas, à date, dans la législation, c'est plus... on va parler d'aliments nouveaux, on va parler d'organismes nouveaux. c'est comme le nouveau qui est là, mais j'ai pas vu dans la législation qu'on utilisait, je pense, avec le saumon sauvage pour le transposer au saumon transgénique. J'ai l'impression, d'après moi, parce que mon copain, je me trompe, mais moi, c'est vraiment au niveau scientifique que c'est utilisé à date. C'est sûr aussi que je dirais qu'au niveau pratique, si on développe des enclos plus résistants pour éviter les échappées, tout ça, ça peut servir aussi éventuellement. Mais vraiment, dans la législation, à date, j'ai pas vu de...
Apparemment, le saumon des vaches est vraiment
déjà beaucoup plus agressif. En plus, il remonte les poissons. C'est ça, lui aussi, il est différent des poissons. Enfin, c'était, je sais qu'il y a certains coins, je pense que c'est dans le Brésil, où vraiment des ravages terribles, quoi. Mm-hmm. Et puis, là, plus, bon, ouais. Puis, moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est que des fois, on a l'impression qu'on se dit, ben, si on prenait des mesures pour que les poissons puissent pas s'échapper, ça réglerait le problème, mais il y a quelqu'un dans un congrès au chalet qui a dit quelque chose d'intéressant, c'est que pas obligé d'être accidentel au coup des échappées. Ça pourrait devenir comme une façon aussi de... Ça pourrait être volontaire, à la limite, comme criminel, là, quelqu'un qui veut faire passer un message puis qui détruit un enclos de poissons transgéniques. Là, c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est pas juste au niveau des accidents. Donc, c'est sûr que les saumons d'élevage, on pense plus aux échappées accidentelles, mais dans le domaine transgénique, cette personne-là avait laissé entendre qu'il faut aussi s'interroger sur ça.
Une question peut-être qui va donner la réponse à la question pratique. Quand on va au supermarché, on achète du saumon, est-ce qu'il faut s'attendre à voir sur le supermarché que c'est du saumon transgénique ou ça se confond?
Ben, c'est ça.
Non, parce que je pense que c'est vraiment comme ça, clairement, le saumon.
Moi, je mange pas du saumon.
C'est déjà ta poire.
Je peux compléter après. Okay. Je dirais qu'il y a deux niveaux. D'abord, au niveau de l'étiquetage des produits transgéniques, ça c'est déjà un débat. Mais à date, on n'a pas d'étiquetage obligatoire. C'est un étiquetage volontaire. De toute façon, il n'y en a pas trop de saumon transgénique en ce moment sur le marché. Donc, ça devrait, il ne devrait pas avoir une étiquette, je dis. Mais si de toute façon. Si un saumon transgénique est approuvé pour mise en marché, l'étiquetage en ce moment ne serait pas obligatoire, mais il serait volontaire. Après ça, le saumon d'élevage, lui, par exemple, comme Mme Leroux m'avait dit qu'elle avait remarqué dans les supermarchés, des fois ça va être écrit ici, c'est toujours une base volontaire. Mais ça, par exemple, aujourd'hui, on peut le voir qu'il va y avoir comme saumon sauvage, ça va être écrit, saumon d'élevage, ça va être écrit. Transgénique, comme on disait, ça pourrait faire l'objet d'un mémoire, là, l'étiquetage. Parce que l'étiquetage des OGM, c'est vraiment un sujet qu'il y a beaucoup d'enjeux. Puis, à date, en tout cas, ça ne pourrait pas être écrit parce qu'il n'y en a pas.
J'ai l'impression d'être en face d'un enjeu planétaire, en fait. Et vous, dans votre mémoire, vous y apportez une réponse nationale à une ère de déréglementation totale. J'ai l'impression que l'ébauche de solution que vous proposiez, c'était que l'État mette un petit peu plus, se mette un petit peu plus là-dedans. Mais tu sais, pourquoi il n'y aurait pas une sorte de co-régulation en faisant appel à une association de consommateurs ou même, moi je dirais, au niveau mondial, pourquoi il n'y aurait pas. Il n'y aurait pas une organisation qui pourrait, comme par exemple les labels écologiques européens, il y a des choses comme ça. Parce que bon, d'accord, je comprends, vous dites, oui, il faut réglementer la production de saumon transgénique au Canada, mais ça ne résout pas le problème. Hein. Peut-être pour nous, pour notre bonne conscience, on va se dire, oui, au Canada, on a limité les dégâts, mais ça va continuer à être produit ailleurs. Hein. C'est dans des pays qui sont moins respectueux des droits, etc. Parce que c'est des multinationales, c'est pas la petite PME de grande vie qui peut se permettre de produire du saumon transgénique. C'est vraiment transnational. Est-ce qu'on n'a pas apporté des réponses, nous aussi, transnationales à cette problématique?
Bien, d'abord, je dirais que au niveau international, ça engendre toujours les mêmes problèmes que dans tous les autres domaines, c'est qu'il n'y a pas... c'est pas vraiment contraignant en droit. Donc déjà, c'est toujours difficile de parler d'une réglementation internationale. Parce qu'il faut que les États soient prêts à mettre un peu de côté leur souveraineté. Tout ça, je pense que ça fait l'objet de débats dans plein de domaines. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que l'Organisation pour la conservation du saumon atlantique nord, qui regroupe notamment le Canada, les États-Unis, la Norvège, eux, ils ont adopté des lignes directrices sur le poisson transgénique. Donc, par exemple, ils vont dire, on veut s'assurer que si un d'entre nous accepte de commercialiser ce poisson-là, qu'il y ait une transparence, donc que ce qu'ils nous disent, puis que nous, on peut réagir conséquemment. On suggère aussi que les poissons transgéniques soient élevés dans des bassins fermés. Donc, il y a aussi, ça, je dirais que c'est un effort international, si on veut, de discussion à propos de qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais c'est des outils qui ne sont pas contraignants, donc quelqu'un peut juste s'en tourner et il peut faire ça à la limite.
C'est parce que, par exemple, dans les années 2000, je me souviens, il avait sorti un petit livret qui était distribué partout en Europe, et qui contenait la liste de tous les produits qui contenaient des OGM. Et ça avait son impact, en fait. Moi, je pense qu'il faut voir l'impact des ONG, l'impact de la société civile, l'étiquetage. Indirectement, nous, on agit, en fait, en tant que consommateurs, sur la production de
poissons. Je dirais que votre point est d'autant plus important dans le cas ici parce que, puis c'est drôle parce qu'à l'origine, c'est ça, j'aurais aimé comparer aussi les États-Unis, leur façon de réglementer, pas du tout la même, alors ça met en doute aussi la possibilité de faire des normes uniformes. Je comprends après, mais parce que aussi, comme vous dites, dans le cas du saumon, c'est un animal qui fait des longues distances, puis je veux dire, il n'y a pas de frontières, alors. Les pays, de toute façon, vont devoir se rassembler pour en parler parce que si les États-Unis acceptent l'élevage de ce poisson-là, il y a beaucoup de chances qu'ils se ramassent dans nos rivières accidentellement. Donc, c'est aussi un animal qui font ça qu'il faut se poser cette question-là d'autant plus parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup. Mais aussi, c'est sûr qu'on en a parlé un peu aussi récemment, c'est que je pense que du moment où les pêches répondent plus à la demande, là, l'aquaculture répond plus à la demande nécessairement parce que, comme on a vu, ça peut prendre comme 3 ans à élever un poisson, un saumon. Fait que la biotechnologie, à un moment donné, elle va peut-être être sérieusement considérée. Puis là, les pays, ils vont pas nécessairement vouloir l'interdire. C'est ça, ça va être une façon de la gérer. Mais ça va dépendre vraiment des pays. Comme aux États-Unis, eux, ce que je trouve super intéressant, c'est que le saumon transgénique n'est pas considéré comme un aliment nouveau, mais comme un new animal drug. Donc, c'est comme si je lui mets un new animal drug, c'est comme un ajout médicamenteux quasiment dans le poisson, le transgène que je vais ajouter. C'est vraiment une façon totalement différente de le voir. Donc ça va influer aussi sur la discussion internationale. Si eux, par exemple, ils le perçoivent comme ça, puis un autre le perçoit vraiment comme un nouvel aliment, ben c'est vraiment difficile aussi. Mais ça, j'avoue que j'aurais aimé ça peut-être comparer avec d'autres pays ou peut-être comme faire un survol de la situation internationale, mais je pense que j'avais sous-estimé le nombre d'affaires au Canada. Il fallait que je mette un terme à tout ça, mais c'est vraiment intéressant d'ailleurs. J'aurais bien aimé avoir de la place pour pouvoir parler de tout.
Moi, j'ai 10 ans d'études à John Hopkins pour comparer les formations pharmacologiques, comparer comment les médicaments étaient approuvés aux États-Unis par rapport aux pays, comme par exemple en France ou en Angleterre. Parce que chez nous, on en a toujours le memorandum of understanding. Ça veut dire que cela est valide aussi pour les aliments génétiquement modifiés, qui est pour les médicaments. Si les compagnies veulent, par exemple, pour les médicaments, ils vont venir voir les universités, ils vont dire bon, si vous désirez faire de la recherche, si le protocole est accepté par les FDA, vous allez tout le temps voir qu'il y a une procédure qui est très différente parce qu'aux États-Unis, c'est la seule place de régulation, les agences sont sous les directions des juges. Quand vous allez sur les websites, vous allez voir United States and others. Et toujours vous demandez c'est pourquoi others. Chez nous, c'est toujours administratif. En France, c'est administratif. En Angleterre, c'est administratif. Mais aux États-Unis, par exemple, pour les OGM, les consommateurs, ils ont l'amené devant les juges. Et ils ont perdu leur temps. Parce que les lois, pour les médicaments, ils fonctionnent un peu différemment. Si vous regardez les dossiers, tous les OGM, à partir de Justice Brennan,
qui avait dit, oui, il faut tout modifier sauf l'homme. C'est ça qui avait pensé. Eux, chaque État, ils ont droit sur les propriétés, que ce soit OGM, que ce soit pour les... Ils l'amènent, puis FDA doit juste observer. Ils observent, parce que nous, ça nous a pris 4-5 ans, voir comment il apporte, comment il a la connaissance, quand que nous, on est 4-5 ans avec des professeurs, déjà en France, une amie, qu'on connaît pour les médicaments, comment on peut dire après l'effet clinique, comment ça fonctionne, pour dire qu'il est efficace, et c'est quoi la sécurité. Mais pour les aliments, comment ça fonctionne, parce que quand même, on peut l'avaler, tous les jours, on est sur... Non, il fallait qu'il parle comme alors, on ne prouve qu'il fait des il va avoir un risque. Pas il va en avoir. Il faut que vraiment il nous dit quelqu'un pour qu'on va aller à l'infirmier, pour qu'on va en avoir. Autrement, FDA doit toujours observer, il va aller regarder, observer, parce qu'ici vous en avez deux droits constitutionnels aux États-Unis. Pour le taxe de speech, ça veut dire lui il va avoir un propriété intellectuel qui va demander que ce soit sur les. Que ce soit sur les maïs, que ce soit sur les... Et en protecteur de speech. Et bien, il ne peut pas lui dire qu'est-ce que tu veux faire pour protecteur de speech. Mais il pourra dire, en protecteur de speech, qu'il y a un professeur qui est en train d'écrire, oui, le produit est sécuritaire, il dit, donnez-moi les données. Donnez-moi les données.
Et qu'il y a comme un droit de regard.
Il va regarder les processus, les choses qu'il ne peut pas faire. Il n'y a aucune donnée, c'est pourquoi que même ici les données sont voilées, qui disaient, bon, l'étiquetage, ce sera impossible scientifiquement en ce moment le faire pour les maïs, pour les blés, pour n'importe quoi. C'est impossible parce qu'il est déjà très mêlé. C'est impossible scientifiquement, on pourra nous faire politiquement, mais scientifiquement, ça va rien. Pour les saumons, je ne sais pas, mais on était un peu considérés comme le changement du blé. Mais pour les médicaments, je vous dis, oui, certains fois au Canada, il le fait, puis moi, même, j'ai discuté avec plusieurs, parce que pendant 10 ans, je travaille aux États-Unis. Quand je viens à votre faculté, je suis même, j'ai un doctorat ici, je travaille avec l'hôpital de Sagan, voir comment vous procédez. Finalement, trois juges américains qui nous ont appris comment il fallait étudier ça. C'était un Justice Breyer, qui écrit beaucoup sur l'administration de l'or, qui était invité plusieurs fois en France. Il avait les professeurs faisaient beaucoup, le gouvernement français faisait beaucoup de conférences. Mais c'est toujours les grandes déclarations. Lui, il disait que vous devez comprendre d'abord comment ça fonctionne chez vous. En partant. Les institutions, comment ça fonctionne, etc. Puis, deuxième, c'était un juge Pompner. Il est professeur à l'Université de Chicago. Lui, il est compliqué, c'est auteur de 40 livres lui-même. Lui, il venait après nous parler à cause de Common Law qu'il y avait telle loi des pieds. On essayait de comprendre. Comment ça fonctionnait à travers les États-Unis. Canada, oui, il y a Memorandum of Understanding pour le coup, pour les santé Canada, surtout, je parle, mais ils n'auront pas le moyen. Scientifiquement, ce sera impossible, même pour les médicaments, par exemple, pour les malades, juste Canada dire non. Le nombre de patients, le nombre de choses que ça, ils n'ont jamais le moyen. Mais ils se mettent d'accord avec eux, ils vont le regarder. Ou bien, des fois, Canada se met avec les Européens.
Oui, je pense qu'il faut... C'est ça. Les paratentants sont exposés, ils portent sur le développement du médicament. Alors, je vais peut-être juste faire une parenthèse pour dire qu'au niveau de la conférence internationale d'harmonisation, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour ce développement du médicament, c'est le nom de mes cordes. Alors, il faudrait faire attention pour ne pas... parce que c'est très, très différent pour ce qui est du développement du médicament. Et lorsque elle a parlé de la loi sur les aliments et drogues, c'est parce que ça nous permet d'aller voir le règlement sur les aliments, mais on n'a pas du tout regardé le volet drogue.
Nous, on a regardé les maïs, des choses comme ça, on a regardé. À cause de ça, il faut le dire.
Faire attention, le Canada, ce que je sais de Santé Canada, parce que je travaille avec ces gens-là, ils sont très jaloux de leur souveraineté dans l'évaluation des dossiers. Alors oui, d'avoir des échanges d'informations, mais la décision est prise ici. Et c'est intéressant de voir comment ça se passe aux États-Unis parce que leur modèle est différent. Mais je pense que l'objet de son mémoire, c'était de dire, dans l'éventualité où nous, un pays du Nord, où on a des saumons,
où on sait qu'il fait de la recherche, est-ce qu'on va être en mesure de prendre la décision? Et si on veut prendre la décision, est-ce qu'on a les outils, l'expertise, le pouvoir? Alors, c'était vraiment le cœur de son mémoire. Alors, je pense qu'il faut faire attention, il faut distinguer, on est dans deux univers. Et même si vous êtes à la fois affecté par les médicaments que vous prenez, la nourriture que vous ingurgitez ou que vous appréciez, je pense qu'il faut faire ces deux univers législatifs. Il y a des différences.
Ce que je peux vous dire, par exemple, pour montrer cette dichotomie-là, c'est que nous, au Canada, on le voit comme un aliment et en même temps, parallèlement, c'est aussi comme une menace à l'environnement. Donc, la loi canadienne sur la protection de l'environnement s'applique. Ce qui fait qu'on a vraiment le côté santé humaine, le côté environnement, on peut le regarder. Ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est que comme justement, ils ont décidé de le voir comme une drogue, là, le côté environnemental,
évacuer.
Parce que là, c'est comme un médicament. On regarde jamais ça, les effets environnementaux. Mm-hmm. C'est ça, ça a été comme une répercussion de cette dichotomie-là.
C'est plus pour l'impression. Pour moi, les données viennent pour le Canada. Je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de droits, ça va intéresser les lois, la façon qu'il a. Mais nous, okay, la décision qui va être prise, mais d'où viennent ces données-là?
Mais
ça
aussi, ça fait dans la code. La Société royale du Canada a publié un rapport sur la biotechnologie alimentaire dans lequel elle faisait part notamment de l'espèce de subjectivité là, au niveau de l'évaluation des risques, aussi comme par exemple les données auxquelles on a accès pour fonder notre décision. Des fois, ça vient d'un nombre comme restreint de personnes, ou c'est telle étude, mais il y en a eu juste une. Ou c'est sûr que ça aussi, ça a été souligné. Là, il faut développer une expertise, il faut développer une banque de connaissances scientifiques. Puis ça, tout le monde l'a compris, le ministère des Pêches et des Océans travaille fort là-dessus. Mais comme vous dites, c'est important, il faut un côté légal, mais comme j'ai montré, il faut une expertise aussi. Là. Sinon, il n'y a pas le lieu d'avoir des pouvoirs qu'on n'est pas capable d'appliquer.
Trouve que par rapport à toutes les nouvelles technologies, n'importe quoi, on trouve toujours une certaine certitude par rapport aux effets que ces technologies peuvent avoir. On a l'ordinateur, la biotechnologie, la nanotechnologie, n'importe quoi, même avant avec les bateaux, n'importe quoi. Ça implique toujours une certaine inconnue. Parce que maintenant la technologie est sensible. Qu'on n'a pas la façon de gérer tout ça. Est-ce que peut-être vous avez une opinion par rapport à ce qu'on peut faire pour gérer ce changement qui est si vite, si constant parce que c'est par rapport à toutes les technologies, c'est quelque chose de très
large.
Oui.
Ben, je dirais, bon, c'est sûr que ça évoque le principe de précaution, là. Mais je ne sais pas si vous avez pour moi pour parler. En tout cas, c'est sûr que moi, d'après moi, l'application du principe de précaution, on peut l'avoir comme à l'extrême. Donc, vu que c'est incertain, on va juste tout arrêter puis jusqu'à temps qu'on accumule assez de connaissances pour être certain des risques puis là, prendre des mesures. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a une façon d'appliquer le principe de précaution qui est comme progressive. Donc, par exemple, dans le cas du saumon d'élevage transgénique, ça pourrait être une solution de dire, ben, on va permettre leur élevage, mais seulement dans des bassins fermés terrestres. Bon, par exemple, ça serait une approche qui ferait qu'on ne va pas jusqu'à l'autoriser comme ça dans l'eau. Donc, par précaution, sans savoir effectivement s'il y a un risque environnemental, là, parce que c'est hypothétique, on ne veut même pas prendre la chance que le risque se réalise. Précaution, on arrête ça là, on ne les met pas dans l'eau. Mais on n'est pas obligé d'arrêter tout. On peut leur permettre de faire l'élevage, mais avec une mesure de protection comme bassin terrestre fermé. Donc, d'après moi, il y a une façon aussi de pouvoir continuer de progresser technologiquement avec des mesures peut-être progressives. Là, si entre-temps, on développe nos connaissances et on voit, on est capable de stériliser les poissons à 100%, bon, là, on peut permettre l'élevage en eau salée dans les côtes, maintenant qu'on a une autre technique de protection. Ça peut être progressif, donc c'est sûr qu'en ce moment, c'est tellement hypothétique que même les bassins, c'est-à-dire que les bassins terrestres fermés, le problème, c'est vraiment au niveau financier aussi. Là. C'est tellement dispendieux de faire une installation aquacole de saumon sur la terre, c'est vraiment coûteux, donc ce serait peut-être même pas comme nécessairement réalisable là, pour les éleveurs. Mais tu sais, ça peut être une façon de faire un compromis entre avancer technologiquement, puis aussi la biotechnologie, comme j'ai essayé de le démontrer dans mon exposé, c'est pas seulement des risques. T'sais. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être bénéfiques aussi. Là. C'est sûr que c'est souvent perçu comme un peu comme inquiétant et tout ça. C'est inquiétant, mais je pense que ça a des bénéfices aussi. C'est pour ça que de tout arrêter par précaution, c'est peut-être pas nécessairement tout le temps la meilleure solution.
La diminution des ressources halieutiques aussi. J'allais dire, c'est que quand on compare par exemple le saumon avec le maïs transgénique, l'introduction du maïs transgénique, elle s'est faite assez rapidement et pourtant il n'y avait pas de problème de ressources. Il y avait une surproduction de maïs. Malgré ça, ça s'est fait. Je veux dire, le principe de précaution a été, on va dire, tassé, arrangé, réorienté, bref. Là, le problème, c'est qu'il y a vraiment une surproduction, il y a une surpêche, une diminution drastique des ressources. On est, il limite la pêche partout. L'industrie des pêches met une grosse pression. Il y a des régions entières, on pense à la Gaspésie, on pense, mais ailleurs dans le monde, il y a des régions entières qui vont être dévastées parce que il n'y a plus rien à pêcher.
Tous les changements climatiques,
voilà, c'est ça. Mais je veux dire, tout fait que l'économie à un moment donné de régions entières va dépendre de ça. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point le principe de précaution ne va pas être là encore passé, sachant que déjà pour le maïs, il y avait tout ce qu'il fallait et qu'on n'était pas si pressé que ça. Ça a avancé comme un bulldozer.
Ouais, là, c'est ça.
Parce que le Japon, ils sont obligés d'aller pêcher. Il y avait un reportage encore la semaine dernière, ils vont de plus en plus profond. Là, ils nous sortent des espèces, dont les gens ont entendu parler. Ça arrive, ouais. C'est dans ils vont pêcher les poissons tropicaux. Enfin, bientôt, on va manger Nemo, c'est-à-dire que
là, il y a un besoin, alors que des fois, c'est juste une nouvelle technologie.
Mais là, bon, je me dis, à un moment donné, ils vont dire, OK, ben, on y va, et puis c'est tout.
Mais il faut y aller, l'idéal serait d'y aller avec des mesures adéquates pour le protection.
Caroline va réagir avec ça. Ouais.
Ouais.
En fait, à ce moment-là, le principe de précaution, il va jouer, mais de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il va jouer parce que là, le menace grave et irréversible, elle va être du côté de justement la perte des ressources halieutiques. Le principe de précaution, on l'a souvent, en fait, on l'associe à un jour-là, on a l'impression, à la technologie. En fait, c'est justement dans des situations de menace grave et irréversible qui va s'appliquer, donc pas nécessairement juste aux technologies.
Bon, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un côté aussi comme social à ça, là, dont j'ai pas parlé, mais tu sais, c'est certain que dans les régions justement où il y avait la pêche et tout ça, ben c'est sûr que là, si on peut permettre d'élever des poissons, par exemple des nouvelles sortes de poissons qui sont plus adaptées à l'eau ou des choses comme ça, c'est sûr qu'il va devoir tenir compte de plusieurs facteurs, donc économiques et sociaux aussi. Puis ça va entrer en compte dans le fait justement de l'autoriser ou non la biotechnologie, c'est certain.
Tu sais, les pays en voie de développement où tu proposes un poisson qui coûte moins cher à produire, qui se développe plus vite et qui est capable de donner plus de viande pour nourrir plus de personnes, tu dis que ça peut être preneur. C'est-à-dire que c'est pas seulement... l'impact va pas être seulement au niveau des grosses compagnies, ça peut être justement même... C'est bien ça le danger d'ailleurs, c'est que ça peut être mis en marché par des, à la rigueur, je dirais même des OGM, des ONG, ça peut aider l'économie locale, des groupes qui ont traditionnellement pêché, ne peuvent plus pêcher, qui mangent du poisson,
Je me demande même si on ne pourrait pas argumenter que c'est carrément des mesures préventives que de la biotechnologie dans le fonctionnement.
C'est ça aussi, j'allais dire, c'est qu'il y a cet aspect-là aussi qu'à un moment donné, si on veut plus nuire aux saumons sauvages, qui ont les laisser comme se refaire finalement une population, ben il y en a qui pourront dire, ben donc là on favorise vraiment l'aquaculture. Mais l'aquaculture, c'est très polluant, il y a beaucoup de dommages environnementaux à cause de l'aquaculture. Puis à ce moment-là, on est juste, comme je vous l'ai dit, ça prend tellement de saumons sauvages, nourrir le saumon d'élevage, que de poissons sauvage pour nourrir le saumon des vaches, que c'est contradictoire. Là. On utilise l'aquaculture pour sauver les ressources halieutiques, puis on leur nuit en détruisant leur habitat, en polluant, en utilisant les poissons pour les manger. Et que finalement, la biotechnologie, c'est peut-être là qu'elle va jouer aussi, comme OK, peut-être que ce ne sera pas un saumon qui va grossir 3 fois plus vite. Par contre, comme j'avais dit, j'aimerais ça en reparler, végétariser le poisson, ce serait de faire en sorte que ses déchets organiques sont moins polluants que quand il est carnivore. Donc, là, c'est sûr que ça peut être très contestable, mais ça, c'est des applications de la biotechnologie qui ne sont pas juste comme économiques, mais qui peuvent être aussi axées comme écologiquement. Genre. Là, on a vraiment un problème de pollution, fait qu'on va faire un saumon qui pollue moins. C'est ça, déjà, avec Enviroport, là, le porc transgénique qui est moins polluant, là. Il y a toujours des côtés comme critiqués à n'importe quoi.
Mais tu vois, je pense à ça, mais au Nunavut, par exemple, chez les Inuits, qui ont des. Mais qui ont des problèmes d'identité, ils perdent leur culture traditionnelle et qui est basée sur la pêche. Tu leur proposes un saumon, je veux dire, ils vont dire, regarde, on ne peut plus manger de poisson, il est contaminé. Tu leur proposes un saumon qui est transgénique, qui est beaucoup moins polluant, donc ça respecte leurs valeurs, etc. Ils vont être preneurs, mais tout de suite, c'est tout. C'est, ils vont être capables de remanger comme ils mangeaient avant. Et tu vois, ça, donc tu te dis quelque chose de biotechnologie, dans le fond, va rejoindre les
choses de plus naturel, mais c'est sûr que...
Plus naturel, mais surtout la perte d'identité, donc ils vont dire, bah, regarde, ça va dans le sens où nous, on va retrouver nos valeurs, donc ils vont être des défenseurs, et Nunavut, c'est assez gros, donc s'ils se mettent à implanter ça, c'est d'or des...
Mais c'est pour ça que le point, c'est vraiment d'être capable de balancer les avantages et les inconvénients, c'est vraiment ça la clé. Je pense pour ça qu'il faut développer nos connaissances le plus possible, pour être en mesure de voir... Ça, il n'y a pas beaucoup de recherches parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources non plus. Puis comme on en a discuté aussi, c'est que le saumon, c'est difficile de faire des recherches sur un poisson comme ça parce que c'est un cycle de vie très long, c'est gros, ça prend des grosses installations. C'est difficile de recréer l'environnement dans un laboratoire, donc c'est long. Là. Puis c'est sûr que le ministère des Pêches et Océans, c'est peut-être pas le ministère qui reçoit le plus de sous. Donc il y a ça aussi, là, s'ils n'ont pas les ressources... financière et humaine pour faire de la recherche, mais ça avance pas non plus.
C'est vraiment
un
signe. Je sais que tu n'as pas une formation pour ces sciences. Et puis, je veux savoir, mettre malgré ça dans l'état scientifique actuel, est-ce que tu dirais plus que tu es pour? C'est une question.
Moi, je pense que. Je pense qu'on n'a vraiment pas assez développé nos connaissances. Ça transparaît dans tout, à peu près tout ce que j'ai lu. Là. C'est comme, il faut faire de la recherche. Je pense que les résultats que j'ai montrés là, juste pour le poisson lui-même qui subit la transgénèse, c'est très limité, là, les recherches. C'est sur une espèce, c'est une méthode d'application.
Il y a beaucoup de variables
aussi. Mais oui, c'est ça. Là, on a juste des résultats sur l'amélioration du taux de croissance. On n'a rien sur... l'augmentation en oméga 3, je veux dire, il y a vraiment, je pense vraiment il faut acquérir plus de connaissances. D'après moi, je serais contre en ce moment, compte tenu de l'expertise. Parce que s'il arrive quelque chose, on n'a peut-être pas l'expertise non plus pour réagir.
Pour l'expertise, parce qu'on
ne
sait pas quoi chercher.
Est-ce
que
vous
sauvage,
moi j'ai de la mal à
juste dire sauvage.
Mais il faut dire du tofu au saumon avec du tofu au épinard, du saumon au épinard.
On peut choisir pour acheter le saumon.
Il y en a qui sont plus
menacés.
Une question pas intellectuelle. C'est bien question, moi quand je regarde la carte ici, vous parlez toujours de l'Atlantique, mais je regarde aussi Pacifique, l'autre Pacifique.
Oh oui.
Mais est-ce qu'il y a des problèmes avec le saumon?
Oui, c'est très très populaire la salmoniculture en Colombie-Britannique. J'ai parlé de l'Atlantique probablement parce que j'ai mentionné l'organisation de conservation du saumon de l'Atlantique Nord, mais au niveau du Pacifique, c'est le gouvernement canadien vient juste d'adopter une politique de conservation du saumon sur le Pacifique. Puis en Colombie-Britannique aussi, en fait, le saumon est élevé comme Atlantique et Pacifique, mais le Pacifique a beaucoup plus d'espèces de saumon. En fait, le saumon sur la côte Est, c'est juste du saumon de l'Atlantique, mais sur la côte Ouest, il y a coq, kéta, rouge, rose, quina, soca, il y a tout ce qui est là, le Pacifique. Fait, oui, c'est vraiment une question importante, puis d'ailleurs, s'ils faisaient le saumon transgénique dans le Pacifique, c'est sûr aussi que ça aurait les mêmes impacts. Je ne sais pas, j'ai peut-être pas remarqué que j'ai parlé plus de mais vraiment, non, le pastic, c'est très, très important. D'ailleurs, beaucoup de textes viennent.
Parce que tout le monde va essayer de manger le saumon pacifique.
Mais l'aquaculture, là-bas, ça fait des décennies.
C'est très, très implanté, là, oui. De saumon, en
particulier. De saumon, en particulier.
Des questions dans vous avez parlé aussi des instituts au Canada qui font des recherches pour l'expertise des relations. Mais vous n'avez pas donné beaucoup d'informations. Comment ils font? Est-ce qu'ils ont, par exemple, des projets en courant? Est-ce qu'ils ont des contacts avec les universités? Est-ce qu'il y a des universités qui font des recherches?
Oui. En fait, par exemple, moi, je suis allée dans un congrès à Saint-Jean-Terre-Neuve, justement. Et donc, là-bas, à l'université de... Memorial University. Oui, eux, c'est eux, en fait, qui ont des laboratoires où est-ce qu'ils font beaucoup de recherches sur l'interaction entre le saumon d'élevage et le saumon sauvage. Le ministère des Pêches Océans, il y a des laboratoires à Terre-Neuve aussi. Donc, il y a beaucoup. En fait, les spécialistes qui œuvrent au sein du ministère, il y en a qui sont comme enseignants au Memorial University puis qui travaillent au Ocean Sciences Center, donc qui sont très liés aux deux. Mais fait que oui, il y a de la recherche autant au niveau universitaire qu'au niveau du ministère. Puis au niveau du ministère, en ce moment, le programme de recherche le plus développé, c'est celui sur l'interaction entre les saumons d'élevage et les saumons sauvages. Il n'y a pas assez de saumons transgénés pour faire des recherches là, disons. Fait que ça, c'est la, ce qui est le plus développé en ce moment, c'est ça qu'on essaie d'appliquer nos résultats sur le modèle transgénique. Mais il y a aussi un peu de recherche qui se fait sur le saumon transgénique en ce moment. Mais le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que le cycle de vie est long. Donc avant d'avoir plusieurs générations de saumon transgénique pour avoir un banc assez important d'études, ça prend des années et des années. C'est comme on a juste la deuxième génération après 3 ans. Fait que, ils ont commencé à constituer une sorte de population d'études de boissons transgéniques, mais ça prend du temps. C'est plutôt au niveau sauvage élevage en ce moment que les recherches. Oui, aussi, c'est ça. C'est que les recherches actuellement se font pas juste sur le saumon, mais en fait, se font sur plusieurs autres sortes de poissons qui sont plus propices à la recherche, comme le médaca et le poisson zébré. Ce sont des petits poissons avec un cycle de vie très court, donc ils peuvent faire comme une progéniture vraiment rapidement. Au bout de peut-être un an, on a comme, je ne sais pas combien de générations, mais ça permet de faire plus de recherches rapidement. Puis ça, on transpose après ça ces résultats-là sur le saumon. Donc par exemple, au niveau du médaca, on a fait des études d'interaction entre le médaca transgénique avec un taux de croissance amélioré puis le médaca non transgénique. Puis là, les données qu'on a obtenues, on a dit, ben, si dans le cas du médaca, ils ont un comportement agressif, ils font ci, ils font ça, ben peut-être que dans le saumon, on peut s'attendre à la même chose. Donc, il y a beaucoup de recherches aussi qui vont essayer de prendre d'autres espèces plus faciles à travailler.
Moi, c'est que je connais le reste de Dunhouse, je crois. Parce qu'ils ont des
intérêts
maritimes. Ils font quelque chose, mais je ne sais pas.
Non, il y a clairement des choses qui font métier aussi. C'est ça, quand je suis allée là-bas, j'ai vu qu'il y avait des chercheurs, c'est vraiment leur passion, là, le saumon transgénique. C'est ça qu'on mange, là. Fait qu'ils ont... fait que non, il y a des recherches, mais je pense que c'est juste, c'est aussi, tu sais, c'est financier, c'est les installations, c'est le temps que ça prend, ça. Ça commence, là, il y a clairement des recherches qui se font.
De toute façon, s'ils vont des recherches, ils vont
Je n'ai pas pu en voir des saumons transgéniques, mais apparemment, il y en avait dans les bassins, mais les bassins, c'est tellement haut que... On peut pas, il faut monter sur des échelles pour aller voir de quoi il y en a. De toute façon, ils m'ont dit qu'ils étaient pareils. Ça qui arrive, ils sont pas vraiment différents. T'sais. On a l'impression que vous, c'est ton transgénique, mais non, ils sont pareils.
Merci. Oui, monsieur.
Je trouve que par rapport à la technologie, il y a un problème d'adaptation. On essaye de s'adapter aux nouvelles technologies. Et de changer tout ce qu'on a fait pour le progrès de la science, de la technologie. on cherche une vérité. Je voudrais savoir si dans votre recherche vous avez trouvé qu'il y a une façon de réinverser l'essence et la façon, je veux dire. Disons l'ergonomie, on trouve qu'avant les chaises étaient faites, on essayait que le travailleur s'adapte aux chaises, de cette façon, il allait travailler d'une certaine façon. Et donc maintenant, on essaye avec l'ergonomie, on essaye que les chaises s'adaptent à la personne. Est-ce qu'il y a une façon de faire ça avec...
C'est sûr que moi, dans mon humour, je peux pas vous mentir, je pense pas que j'ai vraiment touché cet aspect-là. Mais, dans mes recherches, mais ce que je peux voir, donc là, vous dites, par exemple, dans le problème des ressources halieutiques qui sont en baisse fulgurante, comme vous dites, au lieu d'essayer de créer une nouvelle affaire, la biotechnologie, puis là, s'adapter à ça, ce serait de s'adapter comme au problème. Donc, pêcher dans certaines saisons où les poissons sont comme plus nombreux, ou laisser... C'est plus ça que vous voulez dire, comme par exemple, au lieu d'essayer de remédier au manque de ressources en créant de nouvelles ressources, c'est de s'adapter au fait qu'il n'y a plus beaucoup de ressources, c'est ça?
Peut-être parce que, disons, si on regarde ce qui est arrivé avec Monsanto, il a produit plus de lait, essayé de faire que les vaches produisent plus. À la fin, on a assez de lait pour tout le monde. C'est-à-dire, on continue à essayer de pousser tout ce qu'on peut faire. Et en réalité, il y a toujours deux éléments qu'on ne regarde pas. Disons, il y a plein de gens au monde que voilà.
On pourrait arrêter de manger du poisson, c'est ça. On peut
pas. Peut-être, on ne sait jamais, parce que, oui. Disons, et je me rappelle que j'ai mangé de... corn. Comment on appelle
du maïs
transgénique. Et un effet que on a trouvé après quelques temps, transgénique, le Canada, l'Argentin, les États-Unis, ils sont le pays le plus avancé en domaine de biotechnologie. L'effet, c'est pas le même. Il est moins fort. Pas dû à ce qu'on mange. Même, disons, on mange les poissons et on essaie de les stériliser pour éviter ça. Mais on ne sait jamais si ça va causer la stérilité dans les êtres humains ou n'importe quoi. Ouais.
Mais là, vous allez arrêter de manger tout, parce que là, la viande, le bétail, on injecte des antibiotiques pour favoriser la croissance rapide. Et on ne sait pas si les résidus d'antibiotiques dans la viande peuvent avoir un impact chez vous. Donc, vous allez développer plus rapidement le rhume ou des allergies. L'eau est polluée, les cyanobactéries sont un problème constant, donc vous ne pouvez pas boire de l'eau pour faire attention. Ça ne change pas la couleur, l'odeur, quand la concentration n'est pas suffisamment élevée. Les fruits et les légumes, vous venez nous dire, il faut faire attention parce qu'il y en a transgénique. Le lait avec l'hormone de croissance, vous dites, non, je ne veux pas en boire, fait que vous allez mourir de faim.
Mais je pense, comme dans ce que vous dites finalement, c'est que des fois, en essayant de régler un problème, on s'en cause juste plus. Ça, c'est clair, là, mais ça, c'est dans l'histoire.
Oui, continuez votre travail.
Disons, lui, il a mentionné le pacifique. Herbal a mentionné le pacifique. C'est très différent manger du poisson de pacifique, où le gouvernement français a fait des tests et nucléaires. Parce qu'il a l'exposition à certains éléments nucléaires qui font de la mutation. Et on peut voir qu'il y a des changements par rapport à la nature, il y a des changements pas seulement par rapport à ça, sino par rapport aux gens. Et il y a plein d'éléments que, à la fin, on va avoir des effets. Même si un élément que, financier que je trouve que dans cette sorte d'analyse, c'est que toutefois, quand on rentre dedans de. N'importe quel projet, on pense, on fait une anticipation rationnelle pour on va avoir cette profit et on va dire ok, on rentre avec tellement d'argent et on est sûr qu'on va recevoir après tellement d'argent. Et c'est comme ça que c'est ça la prédiction qu'on essaie de faire. Et quand on essaie de faire la progression, de regarder comment est-ce que ça évolue, on a toujours le risque de que soudainement le gouvernement va dire non, on a prouvé qu'il y a cette risque. on arrête tout ça et on va perdre plein d'argent. Pourquoi? Parce que le gouvernement est intervenu. Il a dit, toujours le risque, je trouve, et au moins dedans de technologie, c'est aussi une question de hiérarchisation des valeurs. Il a la possibilité de regarder que c'est différent de dire, on va instrumentaliser l'être humain pour arriver à cette fin, à dire l'être humain il est à la fin, et on va instrumentaliser tout pour servir l'être humain.
Mais en tout cas, par exemple, la transplantation, ça c'est une utilisation de la technologie, mais c'est profitable selon moi. Si on restait toujours au stade où on ne veut pas trop favoriser les avancées, ben, faudrait aussi assumer que... Alors, on va peut-être mourir à 20 ans parce qu'on n'a pas de transplantation du cœur, plutôt.
Mais
moi,
je trouve ça intéressant, pour que dans les hommes, voir vraiment une vision écocentrique. C'est un discours qui est mis d'avant beaucoup par des organismes comme Greenpeace, qui utilise en moi des campagnes de publicité qui ne sont pas toujours correctes. Mais au niveau des biotechnologies, ce que moi je réalise, c'est qu'il y a une différence entre les biotechnologies agricoles des végétaux qui sont utilisés sur les végétaux et celles qui sont utilisées par exemple pour les poissons. Parce qu'on a une tendance, moi je vois déjà aussi ça, c'est qu'on va privilégier peut-être plus les poissons, puis on va être plus prêt à prendre des risques dans ces cas-là. Parce que déjà, on a un problème. Déjà, on a un problème grave, comme elle disait sur le souvenir Karine, c'est un problème grave pour la source alimentaire, qu'on peut en perdre. Fait qu'on est plus prêt à prendre des risques, peut-être pour ça, pour les technologies. Mais donc, c'est, il faut faire attention. Pourquoi dire la technologie, c'est mauvais ou...
Je rajouterais à ça que, par exemple, la biotechnologie aquacole, ça ne sert pas juste à produire plus de poissons, mais ça sert aussi à comprendre comment, à comprendre le génome des espèces menacées pour permettre de savoir quelles conditions on peut leur apporter pour qu'ils puissent comme, se refaire finalement une population. Comme par exemple, des fois, il y a des espèces qu'on... On ne sait pas c'est quoi leurs besoins finalement. La biotechnologie, ça permet de savoir, ah ben, ils ont besoin de tel environnement ou telle quantité de ça. Puis là, ça peut nous aider, bon, dans cette rivière-là, avec la pollution, on a mis trop de telle substance. Puis eux, dans leur gène, ça fait ça. Donc, tu sais, ça peut, des fois, c'est pas juste comme en termes de production, mais c'est aussi un outil pour mieux comprendre la nature. Puis après ça, comme vous dites, s'adapter à elle. Donc ça, ça peut, je sais qu'il y a aussi, c'est, au niveau des poissons, c'est de plus en plus étendu la recherche en génomique là, pour essayer de, aussi de faire des cartes pour chaque espèce qui est menacée pour dire, bon, ben, elle, on l'a identifiée puis on sait qu'elle est menacée parce qu'on ne trouve pas ce génome-là ailleurs. Donc, tu sais, ça peut servir des poissons.
Moi, je voulais aller dans le même genre d'idée, puis en même temps, je suis tout à fait d'accord que la technologie, c'est pas juste une grosse affaire. Ça peut apporter, je vois, ne serait-ce qu'en médecine, en médecine, toutes les avancées qu'elle a pu faire, mais je crois que, par exemple, dans le cas des biotechnologies qui sont, qui relèvent d'une industrie, comme l'aquaculture et tout ça, enfin, donc, puis les semences transgéniques, j'entendais la dernière fois, il y avait des pêcheurs, il y avait un reportage sur encore là, c'était à découvrir, je crois, en disant, ben, les fonds marins se dépeuplent, etc., ils faisaient la surpêche, c'est abusif, ils pêchent de tout alors qu'en fait ils cherchent de la morue. Enfin, ils pêchent plus de la morue maintenant, mais bon, ils pêchaient je ne sais plus trop quoi, puis ils ramassent de tout, ils ne les remettent pas à la mer, ils les donnent aux industries pour la bouffe à chat, etc. Et même les pêcheurs, je dirais, il n'y a pas eu de débat sur le rôle des pêcheurs. Je comprends que c'est une industrie qui soutient beaucoup de régions, mais les pêcheurs étaient à dire, mais non, on dépeuple pas l'océan, c'est pas vrai qu'on fait de la surpêche, c'est pas vrai que... Et en ce sens-là, il y a besoin quand même d'avoir, je sais pas si on appelle ça un débat de société ou quoi que ce soit, mais une consultation, mais surtout prendre conscience que il y aura des coûts à ça, il va falloir assumer les coûts, peu importe qui soit. S'il faut se diriger vers la biotechnologie, dirigeons-nous vers la biotechnologie, mais on peut pas dire d'un côté c'est caca, faut pas la prendre, et puis continuer de faire la surpêche, de pêcher n'importe quoi, et de dire, quand la pêche à la morue a été interdite, les pêcheurs ont été les premiers à monter au créneau en disant, ben ok, on va plus pêcher à la morue, maintenant on va se jeter sur le crabe à pince, Ouais. Et puis, je veux dire, la ressource est en train de diminuer, la même chose. Il faut quand même être, au niveau de la société générale, ce que vous appelez la société civile, on pourrait dire, il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience de...
Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent dans les régions où c'est des régions de pêche qu'on pourrait implanter l'aquaculture avec la biotechnologie. Donc, ça va sûrement les mêmes populations qui vont être amenées à comme, discuter de la disparition d'une activité d'un côté puis de l'apparition de l'autre activité de l'autre bord. Parce que d'ailleurs, à Terre-Neuve, avec du président, bon, c'est pas commercial, là, on s'entend sur la recherche et le développement pour l'instant, mais c'est quand même, faut aller dans une région où c'est la pêche. Donc, je pense, oui, en fait, ça devrait être, les populations devraient être consultées, parce que ça va être sûrement les mêmes qui vont devoir changer de la pêche à la
consultation. Tu parles de consultation, mais quand on parle de consultation puis de prise de conscience, faut réaliser que chaque acteur qui est impliqué dans le processus a un rôle à jouer. Si on parle des chercheurs, ils vont avoir un rôle important à jouer pour aller informer les autres membres qui doivent faire partie du débat. Donc, ils ont une responsabilité là-dedans. Donc, chaque... C'est un défi là-dedans d'essayer de donner une place à chaque interlocuteur puis d'essayer d'amener vers une fusion de connaissances qui est extrêmement difficile à faire, d'essayer d'avoir une concertation qui est pour un débat qu'on veut de société.
Il revient constamment à la charge. Bon,
je peux participer aussi aux recherches.
Je voulais présenter peut-être une approche juridique que peut servir de solution. Je aimerais beaucoup savoir votre opinion. Parce que une transposition d'un domaine vers un autre, j'aimerais savoir ce que vous pensez, si vous pourrez que faire, ce que je vais présenter, c'est convenable.
Okay.
Dans le droit pénal allemand, il y a une théorie qui s'appelle l'imputation objective. Disons, le proponent par rapport à cette théorie, ce sont deux versions très personnalistes, ce sont deux versions très pratiques par rapport à ce que on est, et c'est et la façon d'approcher l'imputation, la façon d'approcher le lien de causalité, la façon de regarder les effets et tout ça. Et il commence cette théorie en disant qu'il y a un risque permis dans la société, que la société permet toutes sortes de risques. Et il y a des risques qui sont permis, il y a des risques qui ne sont pas permis. Et que les individus, ils ont deux sortes d'obligations par rapport à cette sorte de risque. Une obligation quand ils participent dedans de la société, et c'est une obligation par rapport aux risques qu'ils assument. Il a deux obligations. Il a une obligation d'essayer de respecter ce qui existe déjà. Il a une obligation de prendre des mesures de sauvegarde par rapport à n'importe quelle conséquence, dommage ou à n'importe quoi qui est produit après. C'est-à-dire l'individu a une responsabilité par rapport à ce qui est à l'arrière et ce qui peut venir. Il a deux sortes d'obligations. Il doit être prendre cette mesure pour pouvoir agir d'une façon convenable. Et s'il garantit pas ces deux éléments, il peut devenir responsable pénalement, mais ça c'est pour l'analyse de, disons, crime et de toute façon. Okay. Mais je trouve que peut-être c'est une façon d'approcher...
vous parlez vraiment de la responsabilisation de l'individu dans la société finalement. Que à titre, nous, de citoyens, on a une responsabilité de, comme dans notre quotidien. Votre exemple, peut-être que je suis dans le champ, mais votre exemple, il me faisait penser au recyclage, disons. Donc, nous, on peut faire quelque chose dans notre quotidien pour favoriser le recyclage. Donc, par exemple, c'est sûr que le gouvernement aussi peut faire des choses comme en installant comme des poubelles de recyclage dans les métros ou quelque chose. Puis là, nous, on peut participer en mettant notre journal dans cette poubelle-là. Donc, on a comme une responsabilité parallèle aussi à celle du gouvernement. Est-ce que c'est ça? Puis là, transposer ça dans le cas du saumon congéné?
Peut-être qu'on peut le considérer aussi dedans d'une corporation et une entité. Je crois que c'est une
comme on croit que le gouvernement est en haut, puis c'est
la même responsabilité envers la société, envers...
C'est sûr qu'au niveau de la biotechnologie, mais au niveau de la biotechnologie, à quoi ça, j'avoue, j'ai de la misère à transposer parce que j'ai comme l'impression que, en tout cas pour l'instant, je me demande pourrais vraiment faire comme, c'est-à-dire ça va être plus une responsabilité au niveau des éleveurs, non? Quelque chose que, tu sais, dans mon quotidien, prévenir les risques de mon congéné, comme, je sais pas, j'ai comme, moi, je pense que j'ai de la misère dans le transposer. Je trouve l'exemple du recyclage, c'est applicable. On peut vraiment voir comme quelle responsabilité on a, chacun d'entre nous. Mais pour la biotechnologie aquacole, j'ai plus de difficultés là, à moins que si on sait que ça engendre des gros problèmes environnementaux, on peut comme plus m'acheter là. Mais sinon, en tout cas, au stade où on en est en ce moment, peut-être que la question ne se pose pas tant que ça à date là.
C'est une question de
drainage. Oui, non, mais c'est intéressant, puis je trouve ça bien, c'est juste, j'avoue que ça me pose un.
Il y a quelqu'un qui
est
intervenu encore. Il y a deux doigts, là, on va lui donner la chance.
C'est François. Oui,
j'ai lu un livre, fort intéressant, de Langdon Wenner, qui s'appelle La baleine et le réacteur. Et il invite à prendre en compte le fait que tout construit humain, tout artefact, comporte des valeurs. C'est pas l'idée qu'il appelle. Puis, lorsqu'on appelle ça au changement de paradigme, de la pêche à l'aquaculture, il y a des impacts économiques et sociaux, franchement, très importants. Il donnait l'exemple dans son livre, dans les années 60-70, l'Université de Californie, je ne sais la plus, malheureusement, a développé une tomate dont la plume était plus résistante que la tomate traditionnelle. En plus, elle est moins bonne, mais ça, c'est une question. Mais l'impact de cette simple découverte-là a fait en sorte de mécaniser l'agriculture. Les terres sont devenues plus grandes, on a eu besoin de moins de main-d'œuvre. Et le paysage agriculturel de la Californie et sur d'autres états a changé de fond en comble. Et bon, il y a eu des poursuites dans les producteurs traditionnels contre l'université qui avait développé la tomate. Ça ne va rien donner. Heureusement pour nous. Mais ça pour dire que dans ces recherches-là, elles avaient des valeurs qui faisaient en sorte de changer un paysage du tout.
Oui, ça serait applicable. Oui, ça serait applicable. Je pense qu'il faut se montrer. Mais je pense que la question, c'est ça, on ne devrait même pas se demander est-ce que ça va changer le paysage, parce que ça va changer le paysage, mais il faut se demander ça va-tu changer pour le mieux ou non, parce que comme a dit Karine, en ce moment, ils sont tellement menacés les ressources halieutiques que pas changer le paysage, finalement, ce serait comme juste dégringoler vers la fin. Oui, il va changer, mais comment on veut qu'il change? Qu'est-ce qu'on veut faire pour que cette modification-là soit la plus bénéfique possible?
Quant au reste, c'est pratiquement seulement de la gestion de risque. Lorsque le saumon peut sauver son enclos,
ouais, c'est beaucoup de...
bon, on peut pallier ce problème-là, des enclos plus résistants, des enclos plus distants, des enclos, les saumons terribles. Ouais.
Je pense que le problème, en ce moment...
Dans une approche de la nagérialisation des risques, où on nous identifie...
C'est ça, il faut identifier, c'est ça l'affaire.
Des arbres d'événements où à chaque étape, on va dire, il y a des systèmes d'alerte, des systèmes d'autorégulation, qui après ça, vraiment, juste avant,
il y a des crises. On que maintenant, dans toute une échelle de choses, il y aura toujours une possibilité.
Il y a quatre séries de vagues qui permettent d'occuper la réaction, puis bon, c'est la quatrième après.
Moi, j'aimerais juste qu'on revienne à une note un petit peu plus optimiste, en fait. C'est vrai, on nous vend de la peur, on a toujours peur. Le risque nucléaire, le risque que des risques conduits dans un jeu. Alors pourtant, on n'a jamais été autant en sécurité que maintenant. En fait, on est en sécurité de rentrer chez nous. Une femme peut rentrer à 3h du matin chez elle, tout ça. Dans le sens où, il faut arrêter d'aller à fond dans ce world. On ne va plus manger de poisson, on ne va plus avoir. On va être contaminé, non. Je pense qu'en tant que juriste, oui, on a des réponses à apporter dans la mesure de nos capacités. Mais dans le sens, il ne faut pas s'impliquer personnellement. Hein, parce que moi, depuis le début, j'ai l'impression qu'on va crescendo dans la peur. Oui, il n'y a pas de solution, qu'est-ce qui va arriver, puis quand on va se disséminer dans la nature. J'espère que moi, je viens du Maroc et je dirais que quand je retourne au Maroc, je suis né là et puis j'ai grandi là, puis quand je vois l'eau du Maroc maintenant, je suis malade. J'ai vu ça toute ma vie, mais c'est plus que je suis ici, en fait, que je suis plus là. Comme hier, j'ai écouté la publicité de l'isole, protéger ce que vous aimez, il faut tout nettoyer et tout. Il faut nous laisser créer des anticorps et tout. Mais il faut arrêter. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tout ce qu'il y a autour de nous, le risque terroriste, le risque nucléaire.
Mais c'est content qu'elle ait apporté
ça. On est bien.
Mais je comprends que j'ai apporté ce point-là parce que dans ma scolarité de maîtrise, j'ai pris un cours en épidémiologie, puis le professeur a distribué un article sur le fait que la société accepte plus de vivre dans le risque, alors qu'il va toujours en avoir. C'est vraiment drôle que vous dites ça parce que c'est exactement un article qui nous a fait lire là-dessus sur comment on dirait qu'aujourd'hui, là, on n'accepte plus rien qui est risqué. Alors qu'il faut se calmer un peu les nerfs. Là. Mais je pense que ce qui arrive aussi, c'est qu'on n'a pas la même défi. Je pense que dépendamment de nos préoccupations, on va être capable de faire comme le risque.
On traverse un peu plus.
Tu sais, comme par exemple...
On dit une voiture.
J'imagine qu'il y a des personnes. Il y a tout ça un risque, c'est vrai, non, mais il faut apprendre à vivre avec, c'est correct. Mais comme il disait, il y a des risques acceptables, il y en a qui ne sont pas. Je pense que ça dépend aussi de nos valeurs, parce que, par exemple, c'est comme dans les pêcheurs, les villages de pêcheurs, là, puis quelqu'un qui est comme né à Montréal, qui reste là, dans Pauvreville, ils n'auront peut-être pas les mêmes préoccupations ou les mêmes façon de voir le risque qu'il n'y ait plus de poison dans l'eau. Tu sais, ça peut être aussi subjectif, mais c'est sûr qu'il faut comprendre qu'il va toujours en avoir des risques. Puis comme je disais, c'est pour ça que le principe de prévention appliqué à l'extrême, qui fait qu'on ne bouge plus parce qu'on est mieux le statu quo que les risques, tu sais, c'est pas bon, pas meilleur non plus. Là.
Je pense que l'État, dans ses belles années, l'État Providence, mais il a apporté toutes les réponses à tout. Bon, vous travaillez, payez vos impôts, et nous, vous apportez les réponses, vous assurez la sécurité. Là, actuellement, on ne vit plus dans cet état omniprésent, je dirais, omnipotent. Non, là, effectivement, dans une situation de mondialisation, l'État n'a plus le bras assez long, je dirais, ou n'a plus le pouvoir de nous protéger de tout, parce qu'on ne vit plus dans cet environnement fermé, où on va se dire, on va se protéger, on va faire les choses correctement, et puis ça va bien aller. Parce que bien qu'on fasse les choses correctement, peut-être qu'ailleurs, ça ne va pas être fait correctement. C'est ça, moi, je voudrais introduire beaucoup de relativité en fait dans toute cette approche en fait, de se dire que vous à votre niveau, vous faites votre mémoire, c'est très bien, vous essayez d'apporter des éléments de réponse et je trouve ça très bien. Puis Madame Leroux aussi, puis moi dans ma matière, puis tout le monde, tous autant que nous sommes, essayons d'apporter quelque chose, notre pierre à l'édifice. Ça s'arrête là, ça ne doit pas nous mener à
arrêter de manger.
Voilà,
c'est bon, on a une mesure dans ça.
J'aimerais remercier beaucoup Madame Leroux d'être parmi nous aujourd'hui et surtout remercier Marie-Ève de d'avoir accepté de nous présenter les fruits de ses recherches dans une période parce que Marie-Ève va présenter pour elle bientôt.
Oui.
Donc c'est une période assez chargée pour toi. Merci de venir.
Mais merci à vous de m'avoir donné la chance.